Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Les chroniques westernosophiques du professeur Rosmini. Tous les deuxième et quatrième dimanches du mois. Sur Radio Grenouille 888.
La dernière saison des chroniques westernosophiques s'était terminée par un film de Sam Peckinpah, La Horde Sauvage, que j'avais analysé dans la perspective de la philosophie du cinéma de Gilles Deleuze. Notamment, je renvoie l'auditeur à L'Image Mouvement, livre de Deleuze, chapitre 10, où il parle justement du néo-western et de Sam Peckinpah. Cette nouvelle saison des chroniques westernosophiques commence également par un rapprochement entre Peckinpah et Deleuze, puisque je vais proposer une analyse de quelques plans de Pat Garrett et Billy the Kid, film de 1973 de Peckinpah. Et je commencerai par une citation de Kris Kristofferson, l'acteur qui joue justement Billy the Kid dans le film, qui dit « Si la horde sauvage a été le soleil de Sam Peckinpah, nul doute que Pat Garrett et Billy the Kid a été sa lune ». Fin de citation. Voilà, donc je voudrais me consacrer à quelques plans à la fin du film, donc au moment du climax, donc le moment où Pat Garrett tue finalement le Kid. Et plus précisément, donc, à 8 plans qui suivent le coup de feu fatal, justement. La question westernosophique que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est finalement de se demander quel est le cadre adéquat de perception et d'analyse d'un phénomène. En l'occurrence, quel est le cadre adéquat de perception et d'analyse d'une œuvre d'art, ou du moins d'un passage d'une œuvre d'art. Donc je voudrais décrire juste rapidement ces 8 plans avant d'en parler. Donc le premier plan, on voit Pat Garrett qui se reflète, qui se regarde dans le miroir. En fait, il regarde le spectateur finalement, il nous regarde et il braque son arme sur son reflet. Donc en l'occurrence, sur nous qui le regardons. Le deuxième plan, on voit toujours Pat Garrett en plan moyen. Il y a d'ailleurs un petit faux raccord et il tire sur le miroir. Il tire sur le miroir. Le troisième plan montre le miroir qui se brise. Le quatrième plan montre Billy the Kid en gros plan en train de tomber sur le sol. Le cinquième plan montre Pat Garrett en plan moyen. Le sixième montre à nouveau Billy the Kid en gros plan sur le sol, cette fois-ci immobile et mort. Le septième plan commence sur le dos de Pat Garrett, donc c'est un plan qui commence de manière quasiment abstraite, le dos de son cache-poussière, et puis il se déplace. Et en se déplaçant, il rend visible le miroir brisé dans lequel on voit qu'il se regarde. Et comme le miroir est brisé, il y a un trou au milieu et le visage de Pat Garrett est dédoublé dans le miroir. Et enfin, huitième plan, on voit à nouveau Billy the Kid au sol. Cette série de plans, un passage assez célèbre et beau moment de cinéma d'ailleurs, c'est l'occasion peut-être de relire le chapitre 4 du livre de Deleuze, L'image-temps, dans lequel Deleuze cherche justement dans le cinéma des images qui produiraient l'idée du temps directement, ce qu'il appelle l'image cristal. L'image cristal, c'est l'image qui renvoie à elle-même, qui renvoie à son double immédiat, et qui est basée sur un court-circuit, écrit-il, qui produit l'indiscernabilité du réel et de l'imaginaire, du présent et du passé, de l'actuel et du virtuel. Alors cette idée de l'image cristal, elle correspond très bien à cette séquence de Pat Garrett et Billy the Kid. D'abord, Pat Garrett, c'est un personnage fantomatique. C'est un personnage, dans tout le film, qui est assez déréalisé. C'est un personnage qui, d'une certaine manière, échappe à lui-même, qui est d'une certaine façon un reflet. D'ailleurs, il y a une des premières fois on le voit dans le film, c'est on le voit justement se reflétant dans un miroir. Et ce face-à-face avec lui-même, Pat Garrett, avec ce miroir, eh bien, c'est l'idée d'un voyage aussi dans son propre passé. Puisque en tuant Billy the Kid, finalement, c'est comme s'il s'était trahi lui-même. C'est comme s'il avait tué son propre passé. C'est comme s'il avait tué sa jeunesse. C'est comme s'il avait tué aussi une certaine idée de l'Ouest. Donc Pat Garrett, dans tout le film, est comme une présence-absence. C'est un personnage insaisissable. Et peut-être que ce caractère insaisissable s'exprime par ce visage qui est déconstruit par le miroir brisé, hein, qui est dédoublé et qui ressemble un petit peu à une peinture de Francis Bacon, par exemple, là, sur justement cette idée d'une identité fuyante. Je cite Deleuze, donc qui ne parle pas spécialement de ce film, hein, mais qui parle du cinéma en général. L'image en miroir est virtuelle par rapport au personnage actuel que le miroir saisit, mais elle est actuelle dans le miroir, qui ne laisse plus au personnage qu'une simple virtualité et le repousse hors champ. Fin de citation. Donc, comme exemple d'image cristal, Deleuze cite justement les miroirs dédoublés, le palais des glaces de la Dame de Shanghai. Et ici, donc, on a le cristal comme expression directe et non chronologique du temps. Alors, la question westernosophique, comme je disais tout à l'heure, qu'on peut se poser par rapport à cette séquence, c'est de savoir si l'image, en l'occurrence, parle d'elle-même et si son sens se saisit directement, simplement en l'apercevant, ou bien relativement, par exemple, au reste du film, au récit, à la réalisation, à la musique, etc. Autrement dit, les apparences qui constituent les œuvres d'art parlent-elles d'elles-mêmes, ou faut-il les comprendre relativement à ce qui n'est pas elles, à quelque chose d'extérieur à elles ? Bien évidemment, une image en général, et encore plus dans le cinéma, une image n'a de sens que relativement à d'autres images, puisque par le processus du montage, ici du montage alterné, entre Pat Garrett, le reflet de Pat Garrett, et Billy the Kid qui passe de la vie à la mort, eh bien justement, on a cette idée que les images prennent sens dans leur confrontation. Le symbole du miroir, d'ailleurs, évoque aussi le passage, hein, le passage entre le monde des vivants et celui des morts. D'ailleurs, Pat Garrett, dans tout le film, a une allure de croque-mort, justement. Hein. Et il y a toute une symbolique du passage dans Pat Garrett et Billy the Kid qui va s'exprimer, par exemple, par la présence de bateaux. Hein, y a même un bateau en construction, et un bateau, on sait que c'est aussi la barque de Caron, hein, qui amène les hommes sur l'autre rive, sur la rive de la mort. Et d'ailleurs, cette suite de plans que j'essaie d'analyser, elle pose une question aussi, puisqu'on se demande si finalement Pat Garrett veut tirer sur sa propre image, dans ce cas-là il y aurait une symbolique suicidaire, ou bien s'il veut tirer sur le miroir et non pas sur son image. Et dans ce cas-là, ça serait peut-être un symbole inverse, puisque c'est comme s'il voulait tuer la mort finalement, hein, si le miroir renvoie à ce thème du passage de la vie à la mort. Un regard plus attentif sur ces huit plans nous montre que le miroir est en fait brisé en deux temps. Il est brisé dans un premier temps par le coup de feu fatal à Billy, et dans un deuxième temps, donc quand Pat Garrett tire volontairement cette fois-ci sur le miroir et sur son image reflétée dans le miroir. Alors le miroir brisé, bien sûr, il renvoie au thème des vanités. Vanités, style pictural du 16e et du 17e siècle, dont j'avais déjà parlé d'ailleurs à propos d'Il était une fois dans l'Ouest et du début de ce film. Alors, est-ce que c'est une référence consciente ou inconsciente chez Peckinpah, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que le miroir brisé renvoie justement à l'impuissance des hommes face au temps et puis au caractère, bien sûr, éphémère de la beauté et de la jeunesse, valeurs qui sont dans le film incarnées par Billy the Kid. Donc, cette séquence, finalement, on peut l'apercevoir dans sa dimension métaphysique, hein, je viens de le dire, comme méditation sur la vie et la mort. On peut aussi la voir comme une méditation politique. On peut voir Pat Garrett qui se tire dessus, qui tire dans son image, en tout cas, comme une méditation sur le suicide de l'Amérique qui a peur de sa propre liberté, qui ne croit plus à la liberté, finalement, un petit peu comme dans Easy Rider, dont je parlerai dans quelques semaines. Puisque le contexte de ce film, c'est aussi le Vietnam, les assassinats politiques, les émeutes raciales. Donc il y a peut-être cette idée aussi de l'Amérique qui se suicide. Il y a aussi une dimension dans ce passage autobiographique, puisque Pat Garrett qui tire sur son image renvoie peut-être aussi au comportement autodestructeur de Sam Peckinpah, liés à l'alcool et à la cocaïne notamment. Et on sait que pendant tout le tournage du film, Peckinpah était très malade. Et d'ailleurs, cette maladie de Peckinpah, on la ressent chez les personnages eux-mêmes. Ils ont tous l'air épuisés, ils ont tous l'air en bout de course. Hein. Jamais l'expression western crépusculaire n'aura sans doute mieux porté son nom. D'ailleurs, ce film est le dernier western de Sam Peckinpah, sauf si on considère Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia comme un western, mais là, j'y reviendrai plus tard, ça pose la question des limites du genre, donc nous en reparlerons dans d'autres chroniques. Mais en tout cas, cette séquence du miroir, de toute évidence, est un moment clé d'un film particulièrement attachant, tellement attachant d'ailleurs que je reviendrai sur Sam Peckinpah dans la prochaine chronique westernosophique.
Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui passent par la porte et ceux qui passent par la fenêtre.
Les chroniques westernosophiques du professeur Rosmini. Tous les deuxièmes et quatrièmes dimanches du mois. Sur Radio Grenouille 888. Et sur www.radiogrenouille.com.